VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, il est 18h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition du 4 octobre 2019. Nathalie Barge à la présentation, voici les titres. Fin du dialogue national au Cameroun qui a recommandé un statut spécial pour les régions anglophones. Les Tunisiens retournent aux urnes dimanche pour les législatives et le 13 octobre pour le second tour de la présidentielle. En Irak, l'ayatollah Ali Sistani appelle le pouvoir à satisfaire les revendications des manifestants. États-Unis, audition de l'inspecteur général des renseignements à huis clos au Congrès par les démocrates qui veulent destituer Donald Trump. Et juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. Libération de 333 détenus, statut spécial pour les régions anglophones du Cameroun. Les mesures proposées lors du grand dialogue national de Yaoundé qui s'achève ce vendredi sont perçues par certains militants comme un premier pas, mais les chefs séparatistes qui l'ont boycotté rejettent déjà ces conclusions. Eki Abadou.
Depuis lundi, plus de 1000 participants sont réunis au palais des congrès de Yaoundé pour tenter de résoudre le conflit dans les régions anglophones. Hier soir, le grand dialogue a recommandé l'adoption d'un statut spécial pour ceux des deux régions anglophones. Ce statut spécial leur donnerait, s'il est appliqué par le pouvoir central, une plus grande autonomie financière, la possibilité d'élire leur gouverneur autrefois nommé par l'exécutif et le rétablissement d'une chambre des chefs traditionnels. Plusieurs anglophones modérés, partisans d'un retour au fédéralisme et non en faveur de l'indépendance réclamée par les plus radicaux, ont effectivement salué cette recommandation tout en restant prudents. Ce statut spécial est juste un premier pas pour trouver une solution permanente à cette crise, a déclaré Félix Agbor Nkongo, un anglophone, avocat des droits de l'homme.
En République démocratique du Congo, moins de nouvelles contaminations et plus de 1000 guérisons dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola qui a tué 2137 personnes en 14 mois. De 10 à 20 cas de contamination par jour, le chiffre est passé mercredi à 1, indique un communiqué des services du Premier ministre. Ce seul cas a été enregistré dans la province de l'Ituri. Aucun cas n'a été enregistré dans le Nord Kivu, province la plus touchée par l'épidémie. 2 ans après l'embuscade djihadiste au Niger, près de Tongo-Tongo, qui a coûté la vie à 4 soldats américains et 4 Nigériens, les États-Unis ont promis 2 récompenses pouvant atteindre 5 millions de dollars en échange d'informations pour localiser le chef local du groupe État islamique. La première récompense peut aller jusqu'à 5 millions de dollars pour toute information permettant l'identification ou la localisation d'Adnan Abou Walid Sahraoui, chef de l'État islamique dans le Grand Sahara. Organisation terroriste qui a revendiqué l'embuscade, a déclaré un responsable du département d'État. Au Nigeria, les ravisseurs de 6 lycéennes et 2 enseignants dans un pensionnat du Nord ont réclamé une rançon pour leur libération, a annoncé le gouverneur de l'État de Kaduna, Nasir Ahmad El-Rufai. Dans la nuit de mercredi à jeudi, des hommes armés ont fait irruption à l'intérieur du lycée Engravers Academy et enlevé 6 élèves et 2 professeurs. Le gouverneur a précisé que des négociations sont en cours pour obtenir la libération des 8 otages. 7 millions d'électeurs tunisiens retournent aux urnes dimanche pour les législatives, 3 semaines après avoir sanctionné la classe politique au pouvoir lors du premier tour de la présidentielle. Irénée Herman Ongbo.
Contrairement à l'élection présidentielle, ces législatives n'ont pas suscité beaucoup d'intérêt auprès des Tunisiens. Elles sont pourtant cruciales dans un pays où le Parlement est chargé des questions qui les préoccupent le plus, l'économie, le chômage, les services publics et l'inflation. Les électeurs ont l'embarras du choix pour ces deuxièmes législatives. Depuis la constitution de 2014, 15 000 candidats pour 217 sièges et surtout une multitude de partis. Les grandes familles politiques, minées par des querelles intestines, se présentent représentants dispersés, comme pour la présidentielle du 15 septembre. La campagne pour les législatives a été largement éclipsée. Le pays doit retourner aux urnes le 13 octobre pour le second tour de la présidentielle. L'un des deux candidats, Nabil Karoui, est toujours en prison, mais son parti est parmi les favoris des législatives de dimanche.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La plus haute autorité chiite d'Irak a exhorté le gouvernement et les députés à satisfaire les demandes des manifestants sous peine de voir encore grandir le mouvement de contestation marqué par la mort de 37 personnes en 4 jours. John Lyndon.
Le grand ayatollah Ali Sistani a dénoncé des attaques inacceptables à l'égard des manifestants pacifiques. Jugeant que des réformes étaient obligatoires, l'ayatollah Sistani s'en est pris au premier ministre et au président irakien, mais a fait porter la plus grande responsabilité de la gabégie aux députés. Un couvre-feu a été décrété dans la capitale et des villes du sud, mais les manifestants sont sortis massivement, occasionnant parfois des batailles rangées. Ce mouvement inédit et spontané est le premier test populaire pour le gouvernement d'Adel Abdel Mahdi, en place depuis à peine un an. L'Internet est coupé et les réseaux sociaux sont toujours inaccessibles. La nuit dernière, le premier ministre irakien a appelé à la patience. Au lendemain de son appel, il y a eu de nouveaux affrontements entre manifestants et forces de sécurité qui ont tiré à balles réelles à Bagdad. La contestation a débuté mardi dans la capitale avant de s'étendre à de nombreuses villes du sud du pays pour réclamer des emplois pour les jeunes et le départ des dirigeants qualifiés de corrompus et de meilleurs services comme l'accès à l'eau potable et à l'électricité.
Ici à Washington, les démocrates accélèrent leur enquête visant à destituer le président américain. Ils auditionnent à huis clos au Congrès ce vendredi l'inspecteur général des services de renseignement, alors que Donald Trump continue de se défendre. Le point avec Abdourahman Dia.
Ce matin, Donald Trump a, dans un tweet, estimé qu'il avait l'obligation, en tant que président, de lutter contre la corruption, même si cela signifie appeler d'autres pays à l'aide. Les présidents démocrates de 3 commissions parlementaires ont rendu public des extraits de plusieurs SMS qui, selon eux, montrent que la diplomatie américaine a conditionné une rencontre du président ukrainien avec Donald Trump à l'ouverture d'une enquête de Kiev sur Joe Biden et son fils. Michael Atkinson, l'inspecteur général des services de renseignement, doit être entendu au Congrès ce vendredi. Il était le premier, au mois d'août, à examiner le signalement transmis par un lanceur d'alerte membre de ses services à propos d'un échange téléphonique entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et Donald Trump. Jugeant ce signalement crédible, il en a directement informé le Congrès avant que n'éclate cette tempête politique à Washington. Les démocrates accusent le président Trump d'avoir abusé de son pouvoir à des fins électorales.
Le premier ministre britannique Boris Johnson, qui a promis un Brexit le 31 octobre, compte respecter une loi récente le contraignant à demander un report faute d'accord, selon des documents judiciaires qui ont alimenté la confusion sur la stratégie de Londres à l'approche de l'échéance. Le gouvernement britannique et les Européens sont engagés dans un contre-la-montre pour empêcher un no deal aux conséquences potentiellement désastreuses dans moins de 4 semaines. Le parquet antiterroriste français s'est saisi de l'enquête sur l'attaque à la préfecture de police de Paris qui a fait 4 morts hier. L'enquête a été reprise sous les qualifications d'assassinat et tentative d'assassinat ainsi que pour association de malfaiteurs terroristes criminels. A précisé le parquet, cela accrédite l'hypothèse d'une radicalisation de l'assaillant converti à l'islam depuis 18 mois. La Russie a convoqué l'ambassadeur iranien à Moscou après l'arrestation d'une journaliste russe à Téhéran, accusée d'avoir collaboré avec les services de renseignement israéliens. La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, indiquait que l'ambassadeur Mehdi Sanaï avait été invité au ministère pour clarifier rapidement les circonstances de ce qu'il s'est passé et pour s'assurer que les droits de la journaliste Yulia Yuzik sont respectés. Les autorités de Hong Kong ont invoqué une ancienne loi d'urgence pour interdire le port du masque pendant les manifestations. Décision à laquelle des protestataires ont répondu en érigeant le visage dissimulé de nouvelles barricades. La chef de l'exécutif, Carrie Lam, a invoqué des dispositions datant de 1922 et auxquelles il n'avait plus été recouru ces 52 dernières années pour interdire le port du masque. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique. On en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée par Nani Talani.
Les autorités centrafricaines ont mis en place un processus pour formaliser les activités des maisons d'achat de diamants. Chacune devra exporter au moins 3 millions de dollars de pierres précieuses par trimestre. Celles qui ne respecteront pas ce minimum perdront leur licence. Après la période d'essai qui se termine à la fin de l'année, les maisons d'achat qui auront respecté ces conditions pourront conclure des contrats avec le gouvernement. L'Angola recevra environ 101 millions de dollars de UK Export Finance pour améliorer le réseau électrique et la connexion de 7000 ménages. Le projet inclut la construction de 5 nouvelles lignes électriques ainsi que la modernisation de plusieurs sous-stations dans la province du Kwanza Norte. La Zambie exportera 600 000 tonnes de maïs et de farine de maïs vers la RDC en 2020 en vertu d'un accord signé le 2 octobre dernier entre les deux pays. La Zambie anticipe une hausse de sa production l'année prochaine et cet accord va contribuer à la restructuration du commerce céréalier entre les deux pays. Pour terminer, l'Égypte a réduit les prix du carburant après une série de hausses liées à des coupes dans les subventions étatiques qui ont entraîné le mécontentement d'une partie de la population. Les prix des carburants ont été baissés d'environ 1 centime d'euro par litre. Les mesures d'austérité incluent la réduction des subventions sur l'essence et l'électricité, ainsi que la dévaluation de la monnaie locale et sont liées aux exigences du FMI.
À présent, les sports avec Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Coupe UEFOA 2019, Burkina Faso, Ghana, les demi-finales dans le viseur.
Oui, les deux équipes ne se quittent plus depuis quelques années. Les étalons ont déjà éliminé les Black Stars de la course au CHAN 2018. Et ils se retrouvent cette année pour les éliminatoires du CHAN 2020. Au match aller, le Burkina Faso a dominé le Ghana à Accra, un but à zéro.
Salah au repos pour le prochain match de l'Égypte.
Oui, la star de Liverpool ne sera pas avec les Pharaons pour le match amical contre le Botswana le 14 octobre. Mohamed Salah a changé sa bio sur Twitter, mentionnant jouer pour Liverpool, mais plus pour sa sélection. Le match contre le Botswana fait partie des préparatifs pour les qualifications de la CAN Cameroun 2021. Ce sera le premier match de Badri depuis sa nomination en septembre.
Le match amical RDC-Côte d'Ivoire a été délocalisé à Rouen.
Oui, cette rencontre amicale était initialement prévue à Paris. Le 13 octobre, les éléphants et les léopards s'affrontent dans le cadre de la journée FIFA. Avant ce match, les léopards de la RDC feront face au Fenech d'Algérie le 10 octobre au stade Mustapha Tchaker de Blida. Pour les matchs amicaux, le sélectionneur de la RDC, Christian Nzengi Biembe, a retenu 26 joueurs, une liste marquée par le retour de l'attaquant Dieu Merci Mbokani et de Niskens Kebona de Fulham en Premier League. Il a aussi fait appel à deux novices, Samuel Moutoussami de Nantes en France et Edo Kayembe d'Anderlecht en Belgique.
En tennis, Osaka éteint Andreescu en quart de finale à Pékin.
Oui, la japonaise Naomi Osaka, quatrième joueuse mondiale, est venue à bout de la lauréate canadienne de l'US Open, Bianca Andreescu, sixième mondiale à 5-7, 6-3, 6-4 en quart de finale du tournoi de Pékin ce vendredi, après une bataille de plus de 2 heures pour la première confrontation entre ces deux pépites du circuit qui peut devenir un futur classique du tennis féminin, Naomi Osaka, âgée de 21 ans, a réussi à prendre le dessus sur sa cadette de 19 ans qui avait enchaîné jusque-là 16 victoires consécutives.
Merci beaucoup Bagassi pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez bien Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Nathalie Barge en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Au Cameroun, la libération de 333 détenus et un statut spécial pour les deux régions anglophones sont parmi les recommandations du Grand Dialogue National qui s'est achevé ce vendredi. Les chefs séparatistes l'ont boycotté et rejettent ses conclusions. Depuis lundi, plus de 1000 participants étaient réunis au Palais des Congrès pour tenter de résoudre le conflit meurtrier dans les régions anglophones. Idriss Fall a recueilli la réaction de Joshua Ossie, vice-président du SDF, le principal parti d'opposition.
Nous avons fait des recommandations au président de la République qui a convoqué ce dialogue pour une mise en œuvre de ces suggestions-là qui peuvent, à nos yeux, commencer à désamorcer la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest. Toutes ces suggestions sont nombreuses, donc je ne peux pas les énumérer ici. Je pense que c'est un début. Ce que moi je salue surtout, c'est le fait qu'on est sorti de la logique de l'affrontement, de la logique de la violence, vers une logique de dialogue. Je pense que c'est un premier grand pas dans la bonne direction.
Est-ce que vous pensez pouvoir simplement élire les gouverneurs et donner une plus grande autonomie financière? Ça va calmer les ardeurs, surtout des séparatistes?
Les réclamations et les frustrations des populations camerounaises et surtout celles du nord-ouest et du sud-ouest sont l'absence de pouvoir au peuple, l'absence du fait que, ou le déficit du fait que les populations locales peuvent décider de leur destinée. Quand on inverse la donne, c'est-à-dire quand on commence à donner du pouvoir à ce peuple-là, quand les communes vont commencer à vivre, quand le développement sera local plutôt que unitaire et venant de Yaoundé ou centralisé et venant de Yaoundé, les gens commenceront à voir que les choses changent. Il ne faut pas oublier que quand Mancho Bibisi a pris d'assaut les rues de Bamenda, c'était tout simplement parce que des décisions sur l'aménagement des routes dans la ville venaient de Yaoundé et tardaient de venir. Donc c'était essentiellement le Coffin Revolution, comme on l'appelle, quand il a défilé avec un cercueil dans les rues de Bamenda, c'était essentiellement une revendication contre l'absence du développement local.
Les leaders séparatistes sont toujours en prison quand même?
Ils sont toujours en prison. Ils ne peuvent pas faire partie d'un arrêt de poursuite puisqu'ils ont déjà été condamnés. Je peux me tromper sur beaucoup de choses, mais je ne pense pas que si on arrive à une situation de ces que ces séparatistes resteraient en prison. Et c'est pour ça que j'invite tous ceux qui pensent que la solution pour mettre fin à la marginalisation ne peut que venir par les armes, de prendre la dynamique qui est en cours en ce moment et de sortir de la forêt. Ce n'est que comme ça que ces sécessionnistes vont sortir. Vous savez, dans un conflit, vous avez besoin d'avoir, je dirais, des butins de guerre ou des butins de négociation. C'est un processus. Et qu'on a fait un premier pas dans ce processus-là. Et moi, j'invite tous ceux qui pensent encore que la violence peut apporter des solutions pour venir rejoindre ce processus. Et je suis très sûr que pour que dans ce processus, on pense aussi à la libération le plus tôt possible de tous ces leaders.
C'était Joshua aussi, vice-président du SDF au Cameroun.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Jacques Mangwa, président du conseil régional de Gbeke et vice-président du PDCI, le parti de l'ancien président Henri Konan Bédié, a été condamné à 5 ans de prison ferme hier pour détention illégale de munitions de guerre. Les précisions avec notre correspondant à Bouaké en Côte d'Ivoire, Siriki Barrault.
Selon les partisans du PDCI, cette condamnation vise un seul objectif, affaiblir le plus vieux parti politique du pays à 12 mois des futures élections présidentielles. Un parti qui a décidé de rentrer dans l'opposition après son refus d'adhérer au RHDP de l'actuel chef d'État Alassane Ouattara. Même si les cadres et sympathisants du PDCI ont reçu un mot d'ordre des instances dirigeantes du parti de s'abstenir de tout acte ou commentaire suite au verdict des juges, Maître Adjé Luc, l'un des avocats de Jacques Mangoua, n'exclut pas l'éventualité d'un coup monté contre la personne de son client.
À partir du moment où le procureur lui-même, il a essayé de rattacher tout ça à les questions politiques, c'est lui qui a fait le parallèle avec Beroumi. Si on sort du terrain judiciaire stricto sensu et qu'on évolue vers un terrain politique, que lui-même il a ouvert, je réponds aussi pour dire si, on peut dire oui, pourquoi pas. Peut-être qu'on veut empêcher Mangoua d'exercer.
Les opinions sont diverses sur le sujet. Si certains pensent que la justice est libre et a pris la bonne décision, pour d'autres, à l'image de Mamery Coulibaly, le verdict est assez lourd.
Le verdict a été très sévère envers le président. Le pays est très sensible. On devait lui accorder vraiment le bénéfice du doute pour encore plus approfondir encore les enquêtes.
Dans le courant de la journée, le procureur de la République, Brahima Bamba, fera un point de presse dont le contenu n'a pas encore été dévoilé. Siriki Baro, Boaké, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24 heures sur 24.
C'est la rentrée scolaire pour de nombreux enfants sur le continent africain, mais tel n'est pas le cas pour plus de 2 millions d'autres. Suite à la fermeture de plus de 9000 écoles en Afrique de l'Ouest et du Centre, selon une étude de l'ONG Save the Children, 44 000 enseignants ne retrouveront pas non plus dans leur classe, ajoute l'ONG. Pour plus de détails, Claire Morin-Gibourg a joint la spécialiste éducation pour Save the Children, Shan Long.
Je pense qu'aujourd'hui, nous avons en Afrique de l'Ouest et Afrique centrale une situation qui est plutôt alarmante. Travaillant dans le domaine de l'éducation, nous avons fait le suivi sur ces chiffres et sur la détérioration de la situation sécuritaire à travers ces pays, encore plus alarmante. Et aujourd'hui, nos réveils, étant donné la rentrée scolaire qui arrive, avec plus de 2 millions d'enfants qui ne pourront pas retourner à l'école. Et nous estimons qu'il y a encore plus de 12 millions qui sont en besoin d'assistance en éducation en situation d'urgence pour ne pas perdre accès à l'éducation aujourd'hui.
Alors on peut parler de la situation au Burkina Faso par exemple. Vous avez compté la fermeture de plus de 2000 écoles en raison de la détérioration de la situation sécuritaire. Est-ce que la situation burkinabé vous inquiète particulièrement ?
Oui, la situation au Burkina Faso est d'autant plus alarmante. Nous travaillons avec le gouvernement et les partenaires humanitaires pour faire le suivi sur la fermeture des écoles. En mars cette année, on comptait 900 écoles qui étaient fermées. Et en vue en perspective de cette rentrée scolaire qui arrive, on compte plus de 2024 écoles qui sont aujourd'hui fermées. Le gouvernement du Burkina Faso estime que ce chiffre sera revu à la hausse avec la rentrée scolaire qui arrive. Nous voyons également sur place l'occupation des écoles par des déplacés internes qui fuient les villages suite à la violence et qui n'ont pas accès à des abris d'urgence. Ils utilisent donc les écoles comme des infrastructures d'abri, empêchant donc des milliers d'enfants d'utiliser les écoles pour leur apprentissage.
Est-ce que d'autres pays de la région font face aux mêmes difficultés ?
Oui, exactement. Aujourd'hui, on voit le Cameroun où il y a plus de 4500 écoles qui sont fermées, Nigeria, le Mali, le Niger qui font face aux mêmes défis avec une détérioration de la situation sécuritaire. Les enseignants qui ne peuvent plus rejoindre les salles de classe suite à la violence ne sont plus disponibles sur place et donc qui entraînent justement la fermeture des écoles, mais également l'éducation qui devient cible des attaques dans certaines zones à haute insécurité.
Et que préconise votre ONG Save the Children pour tenter d'améliorer la situation ?
Aujourd'hui, c'est vraiment de prioriser l'éducation en situation d'urgence dans toutes les réponses humanitaires et vraiment un gros plaidoyer envers tous les donateurs, les bailleurs de fonds, les acteurs humanitaires pour assurer suffisamment de financements qui sont attribués à l'éducation en situation d'urgence et en parallèle un travail avec le gouvernement pour la mise en place et le respect de la déclaration sur la sécurité dans les écoles afin d'assurer la continuité de l'éducation pour tous les enfants en zone de conflit.
C'était Sian Long, spécialiste éducation du Bureau régional Afrique de l'Ouest et Centrale de Save the Children.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Si dormir 8 heures par jour n'est pas la formule idéale pour certains, qu'en est-il d'une courte sieste? Une nouvelle étude suggère que ces siestes peuvent réduire jusqu'à 48% les risques d'accidents cardiovasculaires et cérébraux. Karina Brafadzian a visité un studio qui croit au pouvoir d'un bon sommeil. Son reportage est rendu par Michel Joseph.
Selon une nouvelle étude du Centre américain de contrôle et prévention des maladies, près du tiers des Américains, 35%, ne dorment pas assez. Le studio Recharge Power Nap essaie de trouver la solution ici même à Washington. Maria José Hernández est directrice associée du studio Recharge Power Nap.
What really a power nap is that in between stage, between being awake.
L'importance du sommeil se situe entre la sieste et l'état d'éveil où l'activité cérébrale est au ralenti, ce qui vous aide à vous reposer. Ce n'est pas que vous dormiez, c'est juste un état de repos pour vous sentir mieux après, être plus productif, plus énergique.
L'idée d'une petite sieste, ne dépassant pas une demi-heure, a été développée dans les années 90 par le psychologue américain James Maas. Ses recherches montrent que faire une sieste ne signifie pas forcément s'endormir, mais que certaines conditions doivent être réunies, comme une lumière tamisée, une température fraîche et un environnement calme. Marcel Falk est une cliente de ce studio.
Je me sens vraiment mieux. Je suis plus gentil avec les gens lorsque je viens ici. Et si je ne reviens pas au bout d'une semaine ou deux, je peux certainement dire que je redeviens très stressée.
Une autre cliente, Lisa, témoigne.
J'ai toujours aimé méditer et me détendre. Mais en ce moment, j'ai un enfant de 5 mois à la maison et c'est donc ma chance, au milieu d'une journée de travail, de pouvoir dormir davantage et de me détendre un peu.
De plus en plus d'entreprises souscrivent à l'idée des pauses siestes. Des cabines spéciales sont installées dans de grandes sociétés comme Google et Amazon, mais les studios entièrement consacrés à la sieste sont rares. Les spécialistes du sommeil et de la méditation croient que le concept va bientôt se généraliser. Jackie Krakowski, professeur de yoga, explique.
En tant que société, en tant que pays, nous allons de plus en plus nous concentrer sur la création d'espaces pour la santé, le bien-être, le repos, la détente et fournir un espace pour des petites siestes dans la journée.
Le studio Power Nap, le pouvoir du sommeil, est ouvert depuis plus de 3 ans à Washington. Une sieste de 20 minutes coûte 9 dollars, mais pour les clients, c'est un petit prix à payer pour une meilleure santé, pour recharger rapidement les batteries et reprendre avec enthousiasme une journée remplie.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
c'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Cheikh Tiro. À la console, Aiden Outkou. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Mais tout d'abord, on se retrouve tout de suite pour un rappel des grands titres.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.